إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، حمانا الله وإياكم من النار. فإخوتي في الله، ما زلنا مع قراءتي لكتاب أو قراءة كتاب شرح الأدب المفرد لأمير المؤمنين في الحديث محمد ابن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، بشرح فضيلة الشيخ محمد بن سعيد الرسلان حفظه الله. وقد توقفنا في درسنا الماضي عند باب صلة الرحيم، طيب، وعند حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه. نعم، تفضل.
وجوب صلة الرحيم؟
لا، باب صلة الرحيم، الباب الذي بعده. نعم.
حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عمرو بن عثمان بن عبد الله بن موهب قال سمعت موسى بن طلحة يذكر عن أبي أيوب الأنصاري أن أعرابيا عرض للنبي صلى الله عليه وسلم في مسيره فقال أخبرني ما يقربني من الجنة ويباعدني من النار. قال تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم.
أحسنت. إسلام.
أبو أيوب الأنصاري and they went sur le chemin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, se présenta à lui et demanda: informe-moi de ce que tu peux me rapporter du paradis et m'éloigner de l'enfer.
Me rapprocher?
Me rapprocher.
Me rapprocher, non. Me rapporter, non? Me rapprocher du paradis.
Il sallallahu alayhi wa sallam répondit: alors Allah ne lui donne aucun associé.
Adore Allah.
Adore Allah et ne lui donne aucun associé. Accomplis la prière, acquitte-toi de l'aumône et unis des liens de parenté.
Naam. Barakallahu feekum. Tayyib. Donc, on s'est arrêté sur le hadith numéro 49 du livre Al-Adab al-Mufrad de l'imam al-Bukhari, rahimahullah. Donc, c'est le premier hadith qu'il a mentionné dans le chapitre 26 intitulé Silat al-Rahim, le maintien des liens familiaux. Tayyib, Silat al-Rahim. Donc le hadith ici il est rapporté par le compagnon Abu Ayyub al-Ansari radiyallahu anhu, qui a dit que un bédouin a arrêté le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui poser une question, et il lui a demandé: informe-moi de ce qui me rapproche du paradis et de ce qui m'éloigne de l'enfer. طيب فهذا السائل سأل عن شيء يقربه إلى الجنة ويبعده طيب من النار. فوصاه النبي صلى الله عليه وسلم بكم من عبادات؟ أربع. من أربع عبادات. Donc cet homme, il a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam sur une chose qui le rapproche du paradis, hein, yani qu'il lui dise une chose qui le rapprocherait du paradis, qui l'éloignerait de l'enfer. Et le prophète de lui recommander combien de choses? Quatre. Quelles sont-elles, les frères, ces quatre choses? La première, hein? Naam. Ibadatullahi wahda. L'adoration d'Allah tabarak wa ta'ala seul. La sharika la, sans associé. C'est quoi l'ibada? L'adoration. T'as répondu déjà la semaine dernière. Anis. Naam. Qui c'est qui a levé la main? Naam. Très bien. Ahsan. L'ibada, tout acte, toute parole qu'Allah il aime ou qu'Allah il agrée, apparent ou caché. Yani apparent, visible, que l'on peut voir, ou caché, inapparent, que l'on ne peut pas voir. Taïr. Ahsant. Wa dhakarna inna al-ibadata yadkhulu fiha al-fara'id, al-wajibat, al-mustahabbat, wa kadhalik ijtinab al-muharramat والمكروهات. On avait dit que rentrer dedans, dans le terme adoration, bien sûr, tout ce qui est obligatoire, tout ce qu'Allah tabarak wa ta'ala a rendu obligatoire ou a rendu aussi recommandé. Donc même les choses qui ne sont pas obligatoires mais recommandées religieusement font partie des adorations d'Allah tabarak wa ta'ala. D'accord? As-siwak. Donc le fait d'utiliser le siwak, ce n'est pas une obligation en soi, mais quelque chose qui est recommandé. Donc est-ce qu'on peut dire que c'est une adoration d'Allah tabarak wa ta'ala? Naam. Al-siwak, isti'amal al-siwak, ibadah, est une adoration. D'accord? Et également, le fait de s'éloigner et de délaisser les interdits. Donc quand tu délaisses un haram, eh bien tu as adoré Allah tabarak wa ta'ala. Le fait de s'éloigner du haram, c'est une ibada. Le fait de s'éloigner même des makrouhats, les choses qui ne sont pas interdites, mais détestables, eh bien, sache que même ça, eh bien, c'est une ibada. C'est une adoration. Les frères, c'est quoi une obligation? C'est quoi une obligation, exactement? Non. C'est quoi là, il leur donnait. C'est pas assez précis. Et si tu le fais, il y a une récompense. Parce que si tu dis ce qu'Allah il a ordonné, rentre dedans aussi al-mustahabbat. Parce que les choses recommandées, Allah aussi l'a ordonné. Mais pas de la même manière. D'accord? C'est pour ça qu'il est bien de préciser. تقول الواجب وما أثيب فاعله وعوقب تاركه. طيب. Tu dis l'obligation c'est quoi? Comme l'a dit l'imam Sa'di rahimahullah dans Manhaj Salikin, il a dit l'obligation c'est une chose qui lorsqu'elle est faite par la personne, elle est récompensée, la personne. Mais si elle est délaissée, la personne sera sous la menace du châtiment. Et ça, l'obligation. Celui qui le fait, il est récompensé. Et celui qui ne le fait pas, il est sous la menace du châtiment. D'accord? Non. Ou le haram, c'est le contraire. Le haram, c'est le contraire. Ma uthiba tariku wa uqiba fa'ilu. Al-haram, c'est une chose que lorsque la personne le fait, elle est sous la menace du châtiment. D'accord? Et si elle ne le fait pas, elle est récompensée par Allah subhanahu wa ta'ala. Al-haram. Donc l'alcool. Si tu bois de l'alcool, qu'Allah nous en préserve, tu as commis des péchés. Donc tu auras des sayyi'ats. Mais si tu le délaisses, l'alcool, pour Allah bien sûr, pas parce que tu n'aimes pas le goût, pour autre chose, tu le délaisses pour Allah, tabarak wa ta'ala, tu es récompensé ou pas? Naam, tu es récompensé. Voyez? Al-an, al-mustahab. C'est quoi une chose qui est recommandée? Ma huwa al-mustahab? Naam, ahsant. المستحب أو المسنون هو ما أثيب فاعله ولم يعاقب تاركه. Il a dit, l'imam Sa'di, رحمه الله, المستحب, c'est une chose que si tu le fais, tu es récompensé. Pour Allah, bien sûr. Tu le fais pour Allah, tu es récompensé. Mais si tu ne le fais pas, est-ce que tu as commis un péché? Est-ce que tu as une sayyi'a? Là, tu n'as pas de péché. D'accord? Tu ne le fais pas, tu n'as pas de péché. Mais si tu le fais pour Allah, tu as des hasanat. Alhamdulillah. Hada huwa al-mustahab. Al-makruh, didduhu. Le détestable, c'est le contraire. Ce qui est détestable, al-makruh, huwa ma uthiba tariko, wa lam yu'aqab fa'ilo. Ce qui est détestable, lorsque tu le fais, tu n'es pas châtié. Tu n'as pas d'essayer d'être quand tu fais quelque chose qui est détestable. Mais si tu le délaisses pour Allah, tabarak wa ta'ala, tu es récompensé. Vous voyez? La main gauche. Fa'uthiba تارك أخذ وإعطاء بالشمال ولم يعاقب فاعله. Donc celui qui prend un objet de sa main gauche ou qui donne un objet de sa main gauche alors qu'il peut donner de la main droite, est-ce qu'il a un péché lui? Il n'a pas de péché parce que c'est une chose qui n'est pas interdite mais qui est détestable. Par contre, s'il le délaisse, il fait l'effort de prendre de sa main droite, il fait l'effort de donner de sa main droite, pour Allah, tabarak wa ta'ala, bien sûr, il est récompensé. Il est récompensé. Fahim? Naam. Wa kadhaliko, ittiba' al-nisa lil-janaiz. Fait partie des choses détestables aussi. Le fait que les femmes suivent le cortège funéraire jusqu'au cimetière. C'est quelque chose qui est détestable. Certains disent même que c'est interdit. C'est haram. Certains disent que c'est détestable. Ça veut dire que si la femme ne suit pas le cortège funéraire pour Allah, tabarak wa ta'ala, elle est récompensée. Mais si elle le fait, elle n'a pas de péché. Allahu alam. Wa kadhalik, as-salati fi thawbin wahid. Celui qui prie, on parle de l'homme, hein? Celui qui prie dans un vêtement qui ne couvre pas ses épaules, sa prière elle est valide? Il prie juste avec un izar qui cache de son nombril jusqu'au genou, sa prière elle est valide ou pas? Allez frère. C'est détestable. Mais sa prière, elle est sahiha. Sa prière, elle est sahiha. D'accord? Donc, celui qui le fait, il n'a pas commis de péché. Mais s'il le délaisse, il fait l'effort de bien s'habiller, hein, pour la prière et de couvrir ses épaules, etc., il est récompensé. Alhamdulillah. Khair inshallah. Wa kadhalik, at-tahadduth ba'd al-isha. At-tahadduth بعد العشاء يعني بدون حاجة أو ضرورة. Le fait de parler après salat al-isha. Bien sûr, sans qu'il n'y ait de besoin particulier ou de nécessité. Voyez ? C'est détestable. Donc toi, si tu délaisses le fait de bavarder après salat al-isha, eh bien, sache que tu es récompensé. Mais si tu le fais, tu n'as pas de péché, inshallah. Sauf si, bien sûr, tu vas parler des choses haram. Là, c'est autre chose. D'ailleurs, on ne parle pas, bien sûr, non plus de parler de la religion ou de faire un cours. Là, ça ne rentre pas dans la détestation, dans ce cas-là. D'ailleurs, là, c'est une adoration en soi. Na'am. Donc, à ذلك, tashmitu al-atis. Iza lam yahmadillaha. العاطس إذا لم يحمد الله فتشميته مكروه. Et aussi le fait de dire à quelqu'un qui éternue, يرحمك الله. Cet acte on l'appelle التشميت. Le fait de dire à celui qui a éternué, يرحمك الله. Mais si la personne n'a pas dit Alhamdulillah, est-ce que tu lui dis يرحمك الله? Si tu lui dis, ce n'est pas un péché en soi, mais c'est détestable. C'est détestable, comme l'a dit l'imam al-Nawawi, rahimahullah ta'ala. D'accord ? C'est quoi le jugement du teshmit ? Lorsque celui qui éternue, il a dit, Alhamdulillah, et toi tu l'as entendu. C'est quoi le jugement ? L'obligation pour tout le monde, pour tous ceux qui l'ont entendu. Naam, ça que tu veux dire? Akhi, tu veux dire quoi? C'est ça. Allahu a'lam, al-rajih, ikhtalaf al-ulama. Qala ba'duhum, hada sunna. Tashmit sunna, laysa wajiban. Ba'duhum, wajib. Ay fard ayn. Lakin al-sahih, Allahu a'lam, fard kifaya. Fardu kifaya. Donc ils ont divergé les savants. Certains ils ont dit c'est une sunna, c'est recommandé. D'autres ils ont dit c'est une obligation individuelle pour tous ceux qui l'ont entendu. Mais ce qui est authentique, inshallah, c'est que c'est une obligation collective. Ça veut dire que s'il y a une personne qui lui a dit yarhamukallah, ça décharge les autres. Mais si personne ne lui répond, eh bien ils ont tous commis un péché. Ils ont tous commis un péché. Donc même si la personne elle se trouve à quelques mètres de toi, si tu l'entends dire Yarhamukallah, pardon, Alhamdulillah, eh bien, tu lui dis Yarhamukallah. Et quand tu lui dis, tu te fais entendre. Parce que certains ils disent Yarhamukallah, mais ils le disent doucement, sans que l'autre ne l'entende. Non. Si tu veux que ce soit valide, il faut qu'il t'entende. Comme toi, tu l'as entendu dire Alhamdulillah, il faut que tu te fasses entendre quand tu lui dis Yarhamukallah. Comme quelqu'un, des fois, il rentre à la mosquée et dit « Assalamu alaikum ». Si toi, tu veux lui répondre, il faut que tu te fasses entendre. Ça ne suffit pas de dire « Alaykoum assalam ». Mais lui, il t'entend. Il n'y a que toi que tu l'entends, qui t'entend, peut-être celui qui est à côté de toi. Mais lui, comme il est là-bas, il ne t'entend pas. Ça sert à quoi de lui rendre le salam ? Ça sert à quoi ? Il faut qu'il t'entende. Ça, oh là là. Ça y est ? Cheikh Ibn Uthaymeen, rahimahullah ta'ala, il dit, si tu lui rends le salam et que lui, il ne t'a pas entendu, ton salam, il n'est pas valide. Il n'est pas valide, ton salam. D'ailleurs, ça veut dire que si tu es, par exemple, seul dans la mosquée, ça veut dire que personne ne lui aura rendu le salam et tu auras commis un péché. Parce que rendre le salam fait partie aussi des furud kifaya, des obligations collectives. Si personne ne rend le salam à une personne, on est tous dans le péché. Ça y est ? Allahu a'lam.
Si on dit pas la
c'est ça. T'as bien compris, alhamdulillah.
Il y a un hadith, salam avec deux personnes.
Salam, salam.
Vous êtes obligé. Il y en a qui n'a pas dit alhamdulillah, il n'a pas dit alhamdulillah.
Non. C'est pour cela que, comme je t'ai dit encore une fois, ils ont dit que c'est quelque chose de détestable. Mais ce n'est pas interdit en soi. Inch'Allah ta'ala, Allah a'ala. Ouais.
c'est pas qu'on fait devant, c'est en premier, c'est à tout le temps que tu entends un afkar et tu entends quelqu'un qui est éternu et qui dit Alhamdulillah. Est-ce que tu finis ton afkar ou tu coupes ton afkar et tu dis Alhamdulillah? Pareil pour Salam alaykum, si tu entends le Salam alaykum, mais toi tu entends ton afkar ou tu entends le pour un. C'est quoi que tu fais devant, c'est la réponse ou tu finis l'afkar?
La base, c'est que tu réponds directement à la personne. Qu'il n'y a pas de temps d'attente entre les deux. Après, s'il y a des gens qui lui ont répondu déjà avant toi, de là, tu continues à faire tes adhkar. Ça y est. Mais s'il n'y a que toi, et tu l'as, en plus tu l'as entendu, tu lui réponds, tu coupes tes adhkar, tu lui réponds, mais tu reprends les adhkar. Ça, c'est pas quelque chose de grave ou de difficile à faire. Après, tu continues, tu reprends tes invocations. Normal. Pour celui qui n'est pas en prière, celui qui est en prière. Ça y est. Mais celui qui est en prière et qui éternue, est-ce qu'il peut dire Alhamdulillah? Ça dépend. S'il est en train de réciter le Coran, il ne dit pas Alhamdulillah. D'accord? Mais en dehors de ça, les ulama disent tu peux dire Alhamdulillah, mais en prière. C'est un dhikr. Hein? Non. Si tu es en prière, tu ne réponds pas. Et si tu n'es pas en prière, tu le réponds. C'est bon, les frères? C'est quoi? C'est encore par rapport à ça?
Par rapport à lorsqu'on est dans la roupa, ça va être du moins. Il y a une personne qui passe à salam. Des fois, il y en a d'autres, il vient carrément avec la main et il passe à salam. Il te serre la main.
Salut la main. C'est le kalam qui est interdit. Le fait de parler qui est interdit. D'accord? S'il te tend la main, serre-lui la main. D'accord? Par contre, rendre le salam, non. Rendre le salam, tu ne le fais pas. D'accord? C'est bon, on continue, Inch'Allah. C'est quoi? C'est encore par rapport au salam? Non, là, dans la jurisprudence de la prière, on sort du sujet là. On sort du sujet. De quoi? Quand tu es aux toilettes, que tu éternues. Alors, si tu es en train de faire tes besoins, tu parles pas. D'accord? Tu parles pas. C'est bon? Et si tu n'es pas en train de faire des besoins, tu sors et tu dis Alhamdulillah dehors. C'est mieux. Tu peux dire Alhamdulillah pendant la khutbah. Pendant la khutbah, tu peux faire des adhkar comme Alhamdulillah si tu as éternué. Ou tu peux dire Sallallahu alayhi wa sallam si tu entends mentionner le prophète Sallallahu alayhi wa sallam. Tu dis Sallallahu alayhi wa sallam pendant la khutbah. Il n'y a pas de mal. Tu peux dire Amin. Si l'imam fait des dua, tu dis Amin. D'accord? Non. Allah. طيب. نواصل إن شاء الله تعالى. إذن العبادة الأولى عبادة الله وحده لا شريك له. الثانية c'est quoi la deuxième adoration qu'il a recommandé? نعم la prière. إقامة الصلاة. إقامة الصلاة. يقول هنا الشيخ رسلان حفظه الله وهذا الإحسان يتطلب الجلوس في حلقات العلم لدراسة كتاب أو كتابي الطهارة والصلاة في الفقه الإسلامي عموما في الأصول وفي الفروع. أما في الأصول ففي سنة النبي صلى الله عليه وسلم المدونة في الكتب في الصحاح وفي المسانيد وفي السنن وفي المختصرات وهكذا في كتب الفروع المختصرات والمطولات بالتفسير. ويجلس العامي والمتعلم في حلقات العلم حتى يتقن كتاب الطهارة وكتاب الصلاة فيعمل به بنفسه ويعلمه غيره وبالدرجة الأولى الأهل والعشيرة والأقارب ومن استطاع من إخوانه مسلمين فيكون قد جمع بين العلم والعمل والنشر. وهذا يعتبر مجاهدا في سبيل الله عز وجل، لأنه جاهد بأعظم السلاح وهو البرهان، نصوص القرآن والسنة لبيان أعظم عبادة بعد الشهادتين، ألا وهي الصلاة، وإتقانها يحتاج إلى جهد كبير. يقول الشيخ: إتقان الصلاة يحتاج إلى جهد كبير ومواصلة مستمرة. لذا كما أسلفت تجد المؤلفين في علم الحديث وفي الفروع أول ما يبدأ مؤلفه بكتاب الطهارة وكتاب الصلاة، أول ما يبدأ به كتابه بماذا؟ بباب أو كتاب الطهارة، ثم كتاب الصلاة، وبعد ذلك تتبعها بقية أركان الإسلام وبقية الأحكام. Donc il dit ici par rapport à la salat. Il dit, fait partie donc de ce qui convient de faire aux musulmans, et bien qu'ils recherchent les assises de science, les assises d'études de la religion, et qu'ils étudient notamment en priorité, bien sûr, après l'aqida, la croyance authentique, qu'il étudie al-tahara tout d'abord, la purification, et bien sûr al-salat, tout ce qui concerne la purification et la prière. Hein? Donc les livres, que ce soit les livres yani, qu'on appelle fil-osol, dans les fondements, d'accord, ou fil-furu', des branches. Donc ce qu'il appelle ici par les livres des usul, là il ne parle pas des fondements de la jurisprudence, usul fiqh, mais il parle en fait des livres dans lesquels on trouve les hadiths de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, comme Sahih Bukhari, Sahih Muslim et les Sunan, etc. Donc dans ces livres là tu trouves les hadiths, bien sûr, dans tous les domaines, et notamment le domaine de la prière, le domaine de la tahara, le domaine de az-zakat, etc. D'accord ? Que ce soit des livres qui sont résumés ou autres. Mais bien sûr, tu as les livres qu'on dit kutub al-furu', résumés ou pas résumés, voyez, dans lesquels tu trouves au contraire que des hadiths concernant un certain domaine comme la salat ou la zakat ou le hajj ou autre, et dans lesquels l'auteur il va expliquer en détail comment yani, prier, comment verser la zakat, comment se purifier. Comme par exemple le livre de l'imam Sa'di rahimahullah, Manhaj Salikin. Donc Manhaj Salikin, c'est un livre dans lequel l'auteur rahimahullah ta'ala va détailler yani, les adorations de l'islam, ce qu'on appelle un livre de fiqh, et c'est un livre qui est mukhtasar, résumé. Donc il commence le cheikh par parler un peu bien sûr de la aqida, mais tout de suite après il parle de la purification, etc. et ensuite la prière, az-zakat et le reste des piliers de l'islam. Ay na'am. Donc, l'ami, donc celui qui n'est pas forcément dans l'étude de la science religieuse ou qui n'a pas beaucoup de connaissances religieuses, comme al-muta'allim, l'étudiant, l'élève en science religieuse, il se doit d'aller chercher ses assises de science, dans le but de parfaire sa prière, dans le but de parfaire sa purification. Combien de musulmans, au bout de 10 ans, 20 ans, pendant lesquels ils faisaient les ablutions, entre guillemets, et au bout de 20 ans, il s'aperçoit qu'il faisait mal les ablutions. Ou alors au bout de 20 ans, il s'aperçoit qu'il faisait mal la prière. Ou il s'aperçoit qu'il récitait mal Sourate al-Fatiha, qui est un pilier de la prière. C'est pour cela que la personne ne doit pas sous-estimer ou ne doit pas se dire c'est bon, je sais, je maîtrise. Non. Tu ne maîtriseras que quand tu te seras assis et étudié vraiment comment prier avec les preuves. Comment se purifier avec les preuves. Là, na'am, tu sauras. Et encore là, il te faudra du travail pour maîtriser ce que tu as appris. Comme il dit le shaykh ici. D'ailleurs, donc tu dois étudier ces livres-là, la prière, la purification, afin de le mettre en pratique et puis de l'enseigner aux autres aussi. D'accord ? Et quand on dit les autres, on commence par qui ? La famille, les proches, etc. Et après eux, les gens qui sont proches de lui, ses amis, ses voisins, d'accord ? S'il est capable de leur enseigner ce qu'il a appris de la prière ou de la purification. Et ainsi, il aura réuni entre la science, la pratique et la propagation. Il aura réuni entre ces trois choses qui incombent à chaque musulman, c'est-à-dire la science, la mise en pratique et la propagation, la transmission de ce qu'il a appris. Et bien sûr aussi après ça, as-sabr 'ala al-adhafi, la patience dans ce qu'il fait. Et celui qui fait ça, il dit le shaykh, il est considéré comme étant un mujahid fi sabilillah. Tu as fait l'effort d'apprendre. Tu as fait l'effort de mettre en pratique ce que tu as appris et puis de transmettre ce que tu sais. Sache que tu es un mujahid. Tu es quelqu'un qui combat dans le sentier d'Allah tabaraka wa ta'ala. Vous voyez pourquoi ? Parce que tu auras combattu avec l'arme la plus puissante qui soit, qui est al-burhan, la preuve, le dalil, l'argument implacable. Qala Allah, qala Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Taïb. Tu te sers donc de la plus grande des preuves pour conseiller aux gens de pratiquer comme il se doit la plus grande des adorations après l'attestation de foi qui est la prière. Afin que la personne maîtrise et perfectionne la prière. Il dit le shaykh, pour arriver justement, pour atteindre la perfection dans la prière, eh bien tu devras faire énormément d'efforts. Énormément d'efforts. Ce n'est pas quelque chose qui est facile en soi. Non. Parce qu'il te faut quand même apprendre des paroles, des gestes, tout ce qui concerne la jurisprudence de la prière. Qu'est-ce que tu dois dire? Si tu as un doute dans la prière, qu'est-ce que tu dois faire? À quel moment je dois faire sujoud de sahou? Quand l'imam, il fait une erreur, qu'est-ce que je dois faire? Quand l'imam il se trompe, je fais comment? Si c'est moi qui fais imam, qu'est-ce que je dois faire? Oui. Donc il y a énormément de choses à apprendre. C'est pour ça qu'il dit le shir, cela a besoin énormément d'efforts, de juhd. Naam, et de continuité, de régularité dans l'apprentissage. C'est pour cela qu'il dit le shaykh, ceux qui ont rédigé des livres sur la jurisprudence ou des livres de hadith concernant al-fiqh comme Bulugh al-Maram ou Ibn Hajar, ils commencent par quoi? il commence par le chapitre de la purification. Ils ne vont pas commencer par le chapitre de la zakat, ou le chapitre du hajj, ou le chapitre de Somme Ramadan. Non, il commence par quoi ? Par la purification. Avant même la purification, il commence par tout ce qui est pur et impur. Qu'est-ce qui est pur ? Qu'est-ce qui est impur ? Comment te nettoyer après avoir fait tes besoins ? Subhanallah. Avant toute chose. Parce que si tu fais bien les ablutions, mais que tu ne sais pas comment te purifier après avoir fait tes besoins, est-ce que je peux utiliser que de l'eau ? Est-ce que je dois utiliser de l'eau et un solide ? Est-ce que je peux utiliser que un solide, du papier par exemple ? Combien de papier ? Si j'utilise le papier, est-ce que je peux utiliser un seul papier ? Ou il faut au minimum 3 papiers, 5 papiers, ou plus d'essuyage ? Un âme ? Subhanallah. Il y a des ulama qui disent que celui qui utilise que le papier, parce qu'à notre époque c'est le papier, sans eau, que le papier, mais il n'a fait qu'un seul essuyage. Il n'a fait qu'un seul essuyage. Sa purification, elle est valide ou pas? Il y a l'ulama, elle n'est pas valide. Elle n'est pas valide. Il faut qu'il utilise minimum 3 essuyages. Qu'il fasse 3 essuyages, minimum. Il y en a, ils ne savent même pas se laver. Ils ne savent même pas se purifier après avoir uriné ou déféqué. Non. Donc les ulama, ils commencent leur livre Kitab al-Tahara, la purification. Et juste après, Kitab al-Salah, le chapitre de la prière. Et après cela, les piliers qui viennent après, Az-Zakat, le jeûne, le pèlerinage, taïr, et ainsi de suite. Thumma, al-ibadatu al-thalitha. La troisième adoration, c'est quoi ? Az-Zakat. Ada'u az-Zakat. Ada'u az-Zakat, allati hiya qarinatu as-salat. Az-Zakat, qarina as-salat. Fi an-nusus, fi al-hukm. في الحاجة إلى البيان فيما يتعلق بالأموال التي تجب فيها الزكاة. Puis on a le versement de la zakat. Et vous savez que la zakat, dans les textes, très souvent, elle est associée à la prière. Elle est associée à la prière, ce qui montre l'importance de la zakat. Et qu'elle associe à la prière dans le jugement, dans les textes, et dans le fait que tu as besoin de détails par rapport à la zakat. Et ces détails-là sont dans la sunna, pas dans le Coran. Comme pour la prière. Les détails de la prière. Qu'est-ce qu'il faut dire dans la prière? Combien de raka'at? Les heures de prière? C'est pas dans le Coran ça. C'est dans la sunna. Et bien pareil pour la zakat. Le nisab de la zakat, c'est dans la sunna, c'est pas dans le Coran. Les choses qui sont sujettes à la zakat, c'est quoi les frères? C'est quoi les biens qui sont imposables? Est-ce que c'est tout ce que tu possèdes? Hein?
Les animaux.
Les animaux, c'est-à-dire les animaux. Le bétail. N'importe quel bétail. C'est tout? La volaille? Et les moutons? Et les chèvres? Non. Et c'est tout? À part le bétail? Voilà, déjà, la chose qui nous concerne tous, Déjà, l'or et l'argent. Et quand on dit l'or et l'argent, on rentre dedans, bien sûr, tout ce qui suit le cours de l'or et de l'argent. La monnaie, les billets, les euros, le dollar, etc. Là, ça rentre dans ce qu'on appelle l'athman. L'athman. D'ailleurs, les valeurs monétaires qui sont basées sur l'or et l'argent. Rentre dedans aussi les bijoux. D'accord ? Non. Quoi encore ? Naam, ahsant. Urud tijara, la marchandise. Donc pour les commerçants, les produits, la marchandise qu'ils possèdent, elle est sujette à la zakat. C'est tout ?
Les biens.
Les biens ? C'est quoi les biens ?
C'est une maison.
Si tu as une maison, tu sors la zakat sur ta maison ?
C'est un bien que tu possèdes.
Ah ouais ? Ben, tes habits alors aussi. Tes habits, ta voiture, tes meubles. Si tu dis les biens, rentre dans les biens, tout ce que tu possèdes. Ta cuisine, ta chambre, ton lit, c'est des biens tout ça. Qu'est-ce que tu fais ? Il faut que tu additionnes toutes les valeurs que tu possèdes. Eh non, c'est pas concerné. D'ailleurs, awalan. النقدان النقدان وكل ما يقوم مقام النقدين في هذا الزمان كأوراق العملة طيب donc la première des choses c'est ce qu'on appelle النقدان les deux les deux métaux ou les deux valeurs qui sont l'or et l'argent. D'accord ? L'or et l'argent. Donc tous ceux qui ont des bijoux en or et en argent, même si la femme les porte, hein, même si la femme, elle porte des bijoux en argent, elle doit sortir la zakat dessus. À condition, bien sûr, que ça atteint le nisab, le seuil. Et tout ce qui suit le cours de l'or, les euros, le dollar, etc., etc. Toutes les monnaies avec laquelle on achète et on vend. C'est bon ? Non. C'est quoi le nisab ? Non. Min ? Fidda ? Dahab. Donc le nisab de l'or et aussi de la monnaie, inshallah. Même s'il y a divergence, la monnaie, quand on dit la monnaie, c'est les sous. D'accord ? 85 grammes d'or. 85 grammes d'or. Tu peux dire aussi 20 dinars. 20 dinars. Ce qui équivaut à 85 grammes d'or. T'as et l'argent, c'est combien ? Hein ? 390 ? Non. 105. Non. 595. 595 grammes, ça c'est pour l'argent. Donc celui qui a des bijoux en argent, il a atteint 595 grammes d'argent, il est redevable de la zakat. Je peux dire aussi, 200 dirhams. 1200 dirhams, ça équivaut à 595 grammes d'argent.
Ça y est ? Il y a un truc qui m'intrigue par rapport à la suite de la zakat. Si par exemple une personne possède de l'argent, elle
a un commerce, elle possède de la marchandise et elle a du bétail. Comment tu peux sortir la zakat ? Sur une des trois ou sur les trois ? Tu peux, tu dois même additionner si tu es commerçant. Tu dois additionner ta marchandise, la valeur, plus l'argent que tu possèdes en euros, plus l'or ou l'argent. Tu additionnes tout ça, d'accord ? Et tu sors ta zakat. Et tu sors ta zakat. Voilà, c'est bon ?
C'est pour commerçant,
la marchandise.
Il faut qu'on doit faire un an. Non. Donc là, un an, il a un stock, il
n'a
pas vendu.
Faut pas que ça descende en dessous du nisab, qui est, on a dit, 85 grammes d'or. La valeur.
S'il a une marchandise d'une valeur de 85 grammes d'or.
Voilà. Et qui reste en sa possession pendant un an, c'est pas redescendu en dessous, pendant un an, il sort à zakat. Au bout d'un an. C'est pas grave. Il faut qu'il prenne en compte le capital de ce qu'il possède, de la marchandise, en tout. Ça rentre, ça sort, c'est pas grave. Il prend en compte la somme totale. Voilà, Rasulman. Le capital. Rasulman. D'accord ? Et il prend en compte le prix de vente, pas le prix d'achat. Le prix de vente du marché. C'est-à-dire à combien il vend le produit. Hein ?
Hein? Si on est compte, il y a de l'argent.
Hein?
On n'a pas utilisé pendant un an, on doit verser.
Bien sûr.
Mais si on a trop pioche dessus,
tu verses. Tant que ça atteint le nisab. Tant que ça atteint le nisab. Imagine le nisab, c'est n'importe quoi, 4000 euros. 4000 euros. Tu as 4000 euros dans le compte. Et cette somme, elle n'est pas redescendue en dessous de 4000 euros pendant un an. Au bout d'un an, tu donnes le zakat. D'accord ? Et le fait de sortir zakat, fait le mois de Muharram, ou Ashura, ou comme ils font la plupart, c'est des bid'a. Il n'y a pas de date fixée dans la sunna. La date, c'est la date à laquelle tu as atteint le nisab. Donc si ta somme, elle a atteint le nisab, au mois de Shawwal, le 15 de Shawwal, eh bien le 15 de Shawwal de l'année suivante, tu sors ta zakat.
C'est par rapport à ça.
Non, c'est ça.
C'est admettons que maintenant j'ai 4000 euros, et dans un an, je serai à 4500. Je sors sur 4000 ou sur 4500?
Non, sur 4500. Tu sors sur 4500. La condition de l'haoul, la condition de l'haoul, l'année, elle ne concerne pas l'excédent. Elle ne concerne pas l'excédent. D'accord ? Ça concerne que la base de ton capital, qui est 4000 euros par exemple. Tu vois ? Mais les 500 euros là en plus, il n'y a pas cette condition-là d'une année. Tu n'as pas à attendre une année encore pour sortir sur les 500 euros. Non. À la fin de l'année, tu sors sur les 4500 euros. Khlas. On continue, Inch'Allah. Sinon, le cours de fir, c'est lundi. Lundi, à la renote. Non. Taïeb ? Thani, hein ? Al-Bahima. Bahima al-An'am. Min Ibil, wa Baqar, wa Ghanam. Deuxième chose, qui sont sujettes à la zakat, le bétail. D'accord ? Les bestiaux. Bahimat al-An'am. Il rentre dedans seulement les chameaux, les bovins, donc les vaches, etc. Les ovins, les moutons, et les caprins, les chèvres. Donc il n'y a pas la volaille. Celui qui a des poules, il n'a pas à sortir des zakat sur les poules. C'est que sur ces quatre-là. D'accord ? Al-Baqar, les bovins, al-Ghanam. Al-Ghanam rentre dedans les moutons et les chèvres. Al-Ghanam. Wa madha al-Ibil. Les chameaux. D'accord ? C'est tout. Et en plus, ce n'est pas n'importe quel bétail. C'est ceux dont tu n'as dépensé aucun rien, aucun bien pour les nourrir. Parce que si tu dépenses des choses pour les nourrir, tu ne sors pas la zakat dessus. C'est seulement le bétail que tu as laissé manger et brouter dans la nature. Tu ne dépenses rien pour les nourrir. Là, tu sors la zakat. Mais si tu dépenses pour leur nourriture et tout, là, tu ne sors pas la zakat dessus. Ces bêtes-là, on les appelle As-sa'ima. As-sa'ima. Que tu dépenses rien du tout. As-sa'ima, c'est sur lesquels tu dois sortir la zakat. Tu n'as rien dépensé. Est-ce qu'il faut entendre? Non. Alors, tu parles de quoi? Tu parles de l'haoul? Il faut qu'elles aient brouté pendant une année. Non. On a ici là. Ah. On arrête sur ça après. Tu dois prendre en compte tous les animaux, quel que soit leur âge, quand tu comptes, toi quand tu fais le compte, pour savoir combien tu dois sortir, tu dois compter les animaux, combien tu as d'animaux. Là, tu comptes tous les animaux, quel que soit l'âge. Même celui qui a 2 mois, tu le comptes. D'accord ? Par contre, quand tu sors ta zakat en animal, tu dois par exemple 2 moutons. D'accord ? Tu dois donner 2 moutons. Dans ce cas-là, tu dois donner celui qui est valide pour el-udhiya. Donc là, juste pour que tu la prennes en compte là. C'est-à-dire que celui qui a moins de 6 mois, tu n'as pas le droit. D'accord ? Donc quand tu comptes combien tu comptes toutes les bêtes. Mais quand tu donnes, tu prends celle qui a minimum l'âge requis. Et il y a aussi l'histoire des défauts. Si elle a des défauts, si elle est borgne, si elle boite, si elle est trop maigre, si elle est malade, tu n'as pas le droit non plus de la donner. D'accord ? Tu sors la bataille. Après, si le gouverneur il te dit, je préfère que tu me donnes de l'argent, tu donnes de l'argent. La baisse. S'il y a une maslaha, il n'y a pas de problème. Thalith, urud tijar. Troisièmement, bien sûr, la marchandise destinée au commerce. C'est bon ? Thumma, wa hada lam tadhkuruh, al-kharij min al-ard. Al-kharij min al-ard. Tout ce qui sort de terre. Tu as une terre. Dans cette terre, pousse du blé, pousse de l'orge, du raisin sec, enfin du raisin qui deviendra sec, pousse du gingembre, du café. Eh bien, tu dois se donner la zakat sur ça. D'accord ? Là, on ne rentre pas dans les détails et tout, mais la zakat, elle est sur ça aussi. Donc, il y a 4 choses en tout. Tout ce qui sort hors de terre, les bêtes, l'argent et les marchandises. C'est bon ? Non. Thumma, ذكر النبي صلى الله عليه وسلم العبادة الرابعة. Puis la cité, la 4e adoration, c'est quoi ? Hein ? Silatul Rahim. T'allais dire quoi ? On parle du hadith là, on revient au hadith. La 4e chose qu'il a recommandé aux bédouins, c'est quoi ? Maintenir les liens de parenté. C'est la Tabrahim. Bima tahmilu kalimatu sila min ma'ani. Silatun bil ilm ay bit ta'lim. Silatun bil mal bi shartihi. Wa silatun bil aqdam bi hasab al qudra wal istita'a. لأنها من القرب الذي يتقرب بها العبد إلى الله عز وجل ومن الحقوق التي يجب أن تؤدى على سبيل الوجوب كما رأينا يعني في أكثر من موضع في هذه الدروس إلى 4e adoration c'est maintenir les liens de parenté, c'est la tabahim. Et cela inclut tout ce qu'implique le mot as-sila. La liaison. Le lien. Comme le fait de maintenir les liens au niveau de ta'lim, l'apprentissage. Transmettre ce que tu connais à ta famille, à tes proches. Maintenir les liens au niveau matériel. Matériel. En fonction, bien sûr, de ta capacité et du besoin de tes proches. Maintenir les liens au niveau aussi des visites. Le fait de visiter tes proches. En fonction, encore une fois, de tes disponibilités et de ta capacité. Donc, Silat al-Rahim, maintenir les liens de familiaux, fait partie des choses qui te rapprochent d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Il fait partie des droits des serviteurs sur toi, qu'il est obligatoire de respecter. Comme on l'a vu, on est dans plusieurs fois au cours de ces doros. يقول هنا تصل الرحم أي تحسن إلى أقاربك وتواسي ذوي القرابة في الخيرات والرحم التي توصل الرحم التي توصل عامة وخاصة العامة رحم الدين رحم الدين الأخوة الدينية تجب مواصلتها بالتوادد والتناصح والعدل والقيام بالحقوق الواجبة والمستحبة والخاصة فما مر ذكره وتزيد النفقة على القريب مع تفقد أحواله دونك maintenir les liens de parenté, être bienfaisant envers eux, envers les proches, les réconforter, les soulager dans tout ce qui est bien. Et le terme ar-rahim, il dit le shaykh, les liens que tu dois maintenir sont de deux types. Tu as ar-rahim qui est am, général, global. Et tu as Ar-Rahim qui est khas, particulier, spécifique. Al-Am, c'est le lien religieux. Le lien religieux. Donc ça, ça concerne la fraternité en Allah, tabarak wa ta'ala, en religion. Tes frères en religion. D'accord ? Donc ce lien-là, tu te dois aussi de le maintenir. Hein, à travers l'amitié, à travers le conseil, la justice, le respect de ses droits obligatoires ou recommandés. D'accord ? Naam. Al-khas, le lien qui est spécifique, eh bien ça concerne, comme on a vu, les proches parents. Ceux qui ont un lien de sang avec toi, du côté paternel ou du côté maternel. D'accord ? C'est ceux qui ont un lien de sang avec toi. Et plus ils seront proches de toi, et bien plus il sera recommandé de dépenser pour eux, d'être bienfaisant envers eux. Chacun en fonction de ses besoins. Bien sûr, celui qui est pauvre, il aura plus de besoin de toi matériellement que celui qui n'est pas dans le besoin. Et ainsi de suite.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
طيب ثم يقول المعنى الجامع في صلة الرحم هو أن صلة الرحم إيصال ما أمكن من الخير ودفع ما أمكن من الشر بحسب الطاقة. Donc le sens global du maintien des liens, c'est le fait de faire parvenir à tes proches le khayr, faire parvenir à tes proches le bien matériel, psychologique, affectif, un conseil, les visites, l'ilm, et le fait de repousser aussi de toute forme de mal ou de nuisance. Donc le fait de défendre tes proches, de repousser d'eux tout mal, bien sûr, rentre et est inclus dans le terme Silat al-Rahim. Maintien des liens. Maintien des liens. Et bien sûr, encore une fois, en fonction des capacités de chacun. ما يؤخذ من الحديث حرص الصحابة على معرفة الأعمال الموجبة للجنة المباعدة عن النار الموجبة للجنة المباعدة عن النار. Donc qu'est-ce que l'on tire du hadith? Premièrement, le désir des sahaba رضي الله عنهم de connaître les œuvres qui font entrer au paradis et les œuvres qui éloignent de l'enfer. ثانياً أهمية التوحيد وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصلة الرحم وأنها من الأعمال التي tenir le tariq ila al-jannah wa tuba'id 'an an-nar. Deuxièmement, l'importance du tawhid. Lorsqu'il dit ta'budullaha wa la tushriku bihi shay'an. C'est la première des choses qu'il lui a conseillé. Adore Allah et ne lui associe rien. Ensuite, iqamat as-salah, l'accomplissement de la prière. Ita'i zakat, le versement de la zakat. Et enfin, silat al-rahim, le maintien des liens familiaux. Et ces choses-là donc font partie des œuvres qui illuminent, dit le cheikh, le chemin vers le paradis et qui éloignent de l'enfer. Thalitha, as-su'al وسيلة لطلب العلم وازدهاره كما قال صلى الله عليه وسلم قتلوه قتلهم الله هل لا سألوا إذ لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال أخرجه أبو داود من رواية جابر رضي الله عنه وهو إلى هذا الحد صحيح وأما ما كان من أن يعصب على جرحه عصابة ويمسح ما أشبه فهذا ضعيف بعد فجعل العي والمراد به الجهل داء ومرض ودل على شفائه هل لا سألوا إذ لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال. Troisième chose, le fait de poser des questions, le fait de poser des questions, c'est un moyen d'apprendre. D'accord ? Si tu veux apprendre, tu vas devoir poser des questions à ceux qui ont plus de science que toi et qui sont dignes de confiance, afin que ta science augmente et se développe. C'est pour ça qu'il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qataluhu, ils l'ont tué, qu'Allah il les tue. Ils l'ont tué, qu'Allah il les tue. يعني qu'Allah les maudisse et les éloigne de sa rahma. هلا سألوا. Pourquoi n'ont-ils pas posé la question? Ils l'ont mis à l'amour, vu qu'ils ne savaient pas. Pourquoi ne posent-ils pas la question? Au lieu de faire une fatwa sans science. Hein? فَإِنَّمَا شِفَاءُ الْعِي. Car certes, le remède contre l'i, c'est-à-dire l'ignorance, c'est السؤال. La question. Poser la question. Donc le hadith, jusque-là, il est authentique. Il est rapporté par, notamment, Abu Daoud. Mais ce qui vient après dans le hadith, juste après ça, notamment la parole, hein, le fait qu'ils doivent mettre un pansement, d'accord, sur sa blessure, etc., etc., les ulama disent, cette partie-là, elle est da'if. D'accord? Mais le hadith, il est authentique jusqu'à le remède de l'ignorance, c'est la question. Jusque-là, il est authentique. D'accord? Et donc, le Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, ici, il a fait de l'ignorance une maladie et un vice. Marad, wada, une anomalie chez la personne. Parce qu'après, il a dit, le remède de l'ignorance, donc on comprend que l'ignorance, c'est une maladie, vu qu'il a un remède. Et le remède pour cette, ou contre cette maladie-là, c'est quoi? Eh bien, c'est as-su'al. As-su'al, le fait de poser la question. Et quatrièmement et dernièrement, l'importance du maintien des liens, notamment les liens familiaux, surtout les liens familiaux. Ceux qui ont un lien familial avec toi, que ce soit du côté du père ou du côté de la mère, ne serait-ce que à travers un salam, hein, les salutations, c'est le minimum que tu puisses faire, surtout aujourd'hui avec les téléphones et les réseaux sociaux, c'est très facile de maintenir les liens de parenté. Voyez, bien sûr, c'est mieux si tu peux de visiter, d'aider financièrement, de transmettre de ce que tu sais de la religion d'Allah tabarak wa ta'ala, de les conseiller dans le bien, de les défendre contre le mal. Voyez, voilà, que ça نكتفي بهذا القدر والعلم عند الله وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا الكريم وعلى أصحابه أجمعين وسلم تسليما بارك الله فيكم.